Alors, si vous voulez me suivre, je voulais vous lever en même temps pour lire la parole de Dieu. Apocalypse, chapitre 8, versets 7 à 12. Apocalypse, chapitre 8, versets 7 à 12. Le premier sonna de la trompette. Il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne, embrasée par le feu, fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie, mourut, et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Alors, je vais vous asseoir. Alors, aujourd'hui, j'ai intitulé le sermon de façon assez simple. Les quatre premières trompettes, on voit dans l'intérieur du texte qu'il y a, le Seigneur est en train de nous montrer que quand il rouvre le septième sceau, il y a des trompettes qui se mettent à sonner. Une trompette, normalement, c'est un avertissement. Le Seigneur est en train de donner des avertissements. Ce que je voudrais faire, ce serait de revenir un petit peu sur la structure du livre de l'Apocalypse, où on voit qu'il y a sept sceaux, ensuite suivi de sept trompettes, ensuite suivi de les sept coupes de la colère de Dieu. Maintenant, ce qu'on avait voulu faire ressortir la semaine dernière, c'est l'idée suivante. Jésus a reçu du Père le livre qu'il y avait dans la main droite, et c'est le livre des décrets. Le livre des décrets, c'est tout simplement le livre des décisions divines que le Seigneur a prises à partir du moment où il est monté au ciel, et même avant, là. C'est surtout l'histoire humaine qui va tout se dérouler après que lui, il va avoir ressuscité, monté en haut, à l'ascension. Et là, le Seigneur, ça disait que le cheval blanc, il partait pour conquérir. Et il y avait de l'opposition. Le malin était utilisé toutes sortes de moyens. Mais ce qui est important de réaliser, c'est que le Seigneur Jésus a reçu, par l'ouverture, a reçu le livre contenait les sceaux, et le livre contenait sept sceaux. Et c'est au septième sceau que les trompettes commencent à sortir. Ce qui est important de réaliser, quand on étudie le livre de l'Apocalypse, c'est de voir que ce sont des événements. Le septième sceau, autrement dit, dans les sept sceaux, tu as toute l'histoire du monde à partir du début jusqu'à la fin. Les sept sceaux racontent toute l'histoire de l'humanité jusqu'à la fin. Et le septième sceau, les trompettes, quand il rouvre le septième sceau, les trompettes commencent. Ce que l'auteur que j'utilise voulait qu'on remarque, c'est qu'il y avait un lien étroit entre les sceaux, les trompettes et les coupes. Lui, ce qu'il voulait qu'on se rappelle, c'est que les sept sceaux, c'est la description de tous les événements qui vont se dérouler sur la Terre et dans l'univers. Parce que là, il parle des étoiles, il parle de la Lune, il parle de toutes sortes de choses. Et dans l'univers, depuis la sortie du Christ, pour établir son royaume, cheval blanc, si on se souvient un petit peu des semaines passées, jusqu'à sa deuxième venue. Autrement dit, à partir du moment où il sort pour établir son royaume, il nous raconte tout ce qui va se passer sur la Terre jusqu'à la fin. Jusqu'à temps que ça soit terminé, cette histoire-là, et qu'on aille au ciel avec le Seigneur. Donc ça, c'est les sept sceaux, ça comprend tout ça. Et on avait dit que la différence entre les sceaux, les trompettes et les coupes, c'est que les trompettes, c'est une vision qui est plus détaillée des sept sceaux. Autrement dit, dans les sept sourds, vous avez toute l'histoire du monde. Puis quand vous rentrez dans les trompettes, vous avez le détail de ce qui a été décidé dans les sceaux. J'espère que vous me suivez, parce que c'est important. Et l'autre, les sept coupes, c'est quand c'est la même vision, encore des sceaux, mais une vision plus intensifiée. Plus ça va aller vers la fin, plus... Parce qu'après trompette, si les trompettes, c'est un avertissement. Après que tu as eu un avertissement, qu'est-ce qui se passe? L'exécution. L'exécution de la menace. Donc, les coupes, c'est la vision plus intensifiée. Autrement dit, plus on va se rapprocher de la fin, plus les jugements du Seigneur vont être sévères et plus on va... Alors, ce qui était important qu'on avait regardé la semaine dernière, c'est que les éléments des coupes, des trompettes et des sceaux sont simultanés, à la fois contemporains et successifs. L'idée peut être un peu difficile à saisir. Contemporain, ça veut dire qu'à chaque siècle, il y a eu des affaires des trompettes. Puis, contemporain, ça veut dire qu'il y en a eu dans tous les siècles. Successif, ça veut dire qu'il y a une certaine succession là-dedans. C'est assez difficile à saisir, hein? À la fois contemporain et successif. Mais si on ne garde pas ça à l'esprit, à un moment donné, on ne comprend plus rien. Alors, c'est important. Alors, on se doit de conserver à l'esprit que les sept sceaux sont divisés en sept trompettes. Là, on est rendu au début de la première trompette. Aujourd'hui, on voit quatre premières trompettes. Sept sceaux divisés en quatre trompettes. Puis quand on va arriver à la septième trompette, là, on va commencer à ouvrir les coupes de la colère de Dieu. Là, il y a une succession, puis il y a des choses qui se produisent à tous les siècles en même temps. Alors, les sept trompettes, c'est important aussi de le voir, la division, sont divisées en deux groupes. Les quatre premières, qu'on voit aujourd'hui. Là. Et c'est des jugements de Dieu sur la création physique. Vous regarderez aujourd'hui, le texte là, ne parle pas beaucoup de jugements des hommes. La mer, la terre, les poissons. C'est des jugements sur la création et non pas sur la créature humaine. Les trois derniers, c'est vraiment, là, c'est plus sur la création physique, ça s'en va dans le domaine Dieu juge les hommes, les créatures humaines. Très important de voir, il y a vraiment deux groupes, les quatre premières sont des jugements de l'ensemble de la création physique, tandis que les trois dernières sont des jugements sur l'humanité elle-même. Vous allez voir, quand vous allez arriver dans la cinquième, sixième, septième trompette, Dieu avertit les hommes de façon extrêmement sévère. Vous allez voir. Alors, bien entendu, les jugements sur la création physique affectent le sort et la qualité des humains. Si vous arrivez, par exemple, ça dit qu'il y a eu du soleil, il y a eu des inondations, il y a eu les poissons sont morts dans la mer, c'est pas un jugement sur les hommes, mais c'est un jugement qui affecte la qualité de vie des hommes. Alors, il commence par juger d'abord la création pour ensuite en venir à l'humanité comme telle. Alors, je voudrais faire passer la remarque du pasteur et commentateur Herman Oxema. Il me sert beaucoup de son livre, je le trouve très intelligent. Il affirme la chose suivante après avoir exposé le livre de l'Apocalypse à son église à deux reprises d'un verset à l'autre. Comment il est en train de faire. Il l'a fait deux fois. Puis je vois, d'après son commentaire, qu'il sait ce qu'il dit. Il comprend. Puis lui-même, il veut faire la remarque suivante. Il dit, je l'ai mis en anglais, mais je l'ai traduit ensuite. Nous admettons volontiers que l'interprétation des trompettes du livre de l'Apocalypse est très difficile. Moi, je me compare à lui, je me considère comme un deux de pique par rapport à lui. Puis si lui, qui est plus savant que moi, dit « c'est très difficile », ça veut dire, Marcel, garde-toi une petite gêne. Hein? Alors, les commentateurs conservateurs. Moi, la plupart des manuels que j'ai chez nous, c'est la plupart des commentateurs réformés, certains baptistes, certains réformés baptistes. Quand tu lis ce qu'ils ont écrit sur ce chapitre-là, tu te rends compte qu'ils ne disent pas toutes la même chose. Il n'explique pas toute la même chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est difficile. Ça veut dire que si les grands savants de ce monde théologique, qui connaissent le grec, l'hébreu, qui connaissent l'orbite 10 fois mieux que moi, ils disent on a de la misère, ben peut-être que. C'est pour ça que je dis que c'est un livre que je pense, quand on veut l'étudier ou le comprendre, faut faire du. Les Anglais, ils ont un beau terme pour ça, ils appellent ça du knee work, travail de genoux. Il faut que tu fasses du travail de genoux si tu veux comprendre l'Apocalypse. Ou avoir une compréhension très large de l'ensemble, bien connaître le livre de la Bible. Ce qui est de plus en plus rare, mes amis, de nos jours. C'est triste de devoir dire ça à du monde qui ont aujourd'hui, je dirais, on est dans la génération qui a le plus d'outils, de livres, de Bibles, qu'aucune génération avant nous ont eu, mais beaucoup d'auteurs que j'ai lus disent qu'aujourd'hui, on est presque des illettrés. Hey, on peut dire ça par des spécialistes qui étudient la situation, là, que les chrétiens modernes, on est presque des illettrés bibliques. Ça me met mal à l'aise quand je lis ça. Ça me met vraiment mal à l'aise. Alors, pour vous dire, par rapport à ce qu'on fait ce matin, là, on est en train d'étudier les 4 premières trompettes, il y en a qui voient ça comme des symboles. Pas dur à savoir, mais un symbole, il y en a qui vont dire « Les arbres, c'est des gouvernements. » Et là, ils vont chercher les gouvernements des premiers siècles pour essayer d'expliquer. Et il y en a d'autres qui disent « Non, c'est pas symbolique, c'est littéral. » Quand il dit un arbre, c'est un arbre. Puis quand il parle de l'herbe verte, il parle de l'herbe verte. Parce qu'il y en a qui vont dire « Ah, oh, l'herbe verte, ça, c'est le peuple. » Ils sont petits, c'est petit. Mais quand tu rentres dans le domaine symbolique, tu peux faire dire à peu près n'importe quoi aux Écritures. Lui, l'auteur, il dit « Non, moi, je n'embarque pas là-dedans. Je crois que c'est une interprétation littérale des 4 premières trompettes. Littérale, ça veut dire quand il dit arbre, c'est un arbre. Quand il dit mer, c'est la mer. » Parce que dans les Écritures, le mot « mer », des fois, il veut dire l'ensemble de toute l'humanité. Je peux vous montrer des passages qui parlent de ça. Alors, si tu commences à dire que la mer, c'est toute l'humanité, puis qu'il a tombé quelque chose dans l'eau, puis c'était amer, il y en a qui vont dire « Ah, ben là, c'est des fausses doctrines, etc. » Non, lui, il dit non. C'est littéral. Puis il dit que la seule façon de savoir la différence si c'est littéral ou si c'est symbolique, c'est toujours le contexte. Le contexte lui-même, la manière dont tu lis le texte, si tu le lis attentivement, lui, il dit que c'est ça qui fait la différence dans l'interprétation. Alors, on va commencer par la première, dans le verset 7. La première trompette, le jugement sur la terre. Alors, on sait, ça dit, « Et le premier ange sonna, et il y eut de la grêle et du feu, mêlé de sang. » Voyez-vous, c'est là la difficulté. Là. Il y eut de la grêle et du feu, on peut dire le feu, c'est des éclairs, mêlé de sang, on n'a jamais vu ça. Alors, on se dit, c'est-tu symbolique ou si c'est littéral? Et du feu mêlé de ça, qui tombèrent sur la terre, et la troisième partie des arbres fut brûlée. Troisième partie, ça veut dire quoi? Le tiers. Le tiers de tout ce qui est sur la terre va avoir de la grêle tellement importante que ça va détruire le tiers de la terre. La troisième partie des arbres fut brûlée. Donc, les arbres, on sait ce que c'est des arbres. Si vous, disons que vous verriez le tiers de tous les arbres de toute la planète qui seraient brûlés, ça vous donnerait-tu un petit avertissement que Dieu est en train de faire quelque chose? Mais pourtant, la Bible dit que même après ça, ils vont continuer à pécher pareil. Le tiers des arbres fut brûlé et toute l'herbe verte fut brûlée. Autrement dit, les récoltes, tout ce qui est vert, brûlé. Alors, ça ne sera pas un petit jugement quand on va arriver là. C'est un très grand jugement. Puis si on le lit dans la version Louis II, 1910, ça dit « Le premier sonna de la trompette, il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre et le tiers de la terre. » C'est intéressant, cette notion-là du tiers. Parce que si on recule dans le chapitre 6, quand le Seigneur avait parlé des jugements, il avait parlé sur le corps de la terre. Le corps, c'est quoi? C'est 25%. Le tiers, c'est combien? 33 et un tiers. Donc, il est en train de dire que les jugements vont aller en croissant. De un quart à un tiers, les jugements vont aller de plus en plus sévères. Ici, il est important de rappeler le rôle des trompettes pour le peuple de l'Ancien Testament. Quand vous lisez l'Ancien Testament, il y aura toute une étude qu'on pourrait faire là-dessus sur comment Dieu voulait que son peuple utilise les trompettes. Ça avait un rôle, ça avait une fonction. Alors, un des rôles des trompettes pour le peuple de l'Ancien Testament, c'était vraiment pour démontrer de l'autorité. Quand il y a eu le décalogue, quand le Seigneur a donné les 10 commandements de Dieu, ça jouait de la trompette fort, au point que le peuple tremblait de peur. Donc, quand le Seigneur envoie des trompettes, c'est toujours pour démontrer une certaine autorité. Il y a aussi l'idée de convoquer le peuple. Anciennement, quand il voulait prendre un roi, comme Salomon, qui est devenu roi, il jouait de la trompette pour que le peuple vienne, et c'était une façon de convoquer le peuple pour élire le roi, pour le faire que ça devienne public, son affaire. Donc, le couronnement des rois, une convocation. Et il y avait aussi, il servait des trompettes pour montrer la destruction des ennemis. Vous vous souvenez des murs de Jéricho? 6 fois, parce qu'il a demandé de faire 7 fois. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait avant que les murs de Jéricho tombent? Le Seigneur, il avait demandé de jouer de la trompette. Et quand ils ont joué de la trompette, pensez-vous que c'est le son des trompettes qui a fait... Le Seigneur a dit, faites ça, puis moi, je vais faire ma job après. Il a fait, puis là, il a détruit. Alors, des fois, ça sert aussi pour montrer la destruction des ennemis. La remarque, je viens de vous dire, que dans Apocalypse 6, vous lisez, « Je regardais, et voici parut un cheval d'une couleur pâle, celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. » Le pouvoir leur fut donné sur le corps de la terre. Donc, on était au chapitre 6, et là, il va y avoir des choses que le Seigneur dit qui vont arriver aux hommes, mais là, il avait dit le corps de la terre, donc c'est 25%. C'est rare qu'on fait attention à ça. Hein? On peut l'avoir lu, mais ça nous passe 6 pieds par la tête. Mais quand un auteur l'a étudié plus attentivement, puis il nous fait remarquer ça, ah, il y a une croissance. Ça doit être parce que le Seigneur veut nous montrer que plus le temps va avancer, plus les jugements vont être sévères. Donc, ça disait dans le chapitre 6, verset 8, « leur fut donné sur le corps de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. » Donc, le premier jugement, c'est des calamités et des désastres dans la nature. Pas sur les hommes. Bien important de voir les 4 premiers, c'est la nature. Alors, le texte parle de grêle, de sécheresse et de d'autres cataclysmes. Ça, je pense, vous allez être d'accord avec moi. Quand il se passe quelque chose sur la Terre, qu'on écoute les nouvelles, qu'est-ce que le... il y a eu telle affaire à telle place. Jamais les gens ne voient la main de Dieu là-dedans. Jamais. Toujours des catastrophes, selon eux, qui sont naturelles. La Bible dit que quand il y a des choses comme ça qui se produisent, c'est pas des hasards, c'est Dieu lui-même qui les envoie et il a des raisons de le faire. À la fois pour son peuple, qui est nous, et à la fois pour l'ensemble des êtres humains. Il les appelle à la repentance. Quand tu vois là, que tu as le tiers de la terre, de toutes les arbres sont brûlés, que toutes les herbes vertes sont brûlées, ça devrait t'amener à réfléchir. Qu'est-ce qui se passe là? Si tu vois juste ça comme un phénomène naturel, ça ne changera absolument rien dans ta vie. Mais si tu es en train de dire, ça serait-tu le Seigneur qui est en train de nous montrer quelque chose, de te faire réfléchir, de te montrer qu'il faut que tu changes de voie? Alors, ces phénomènes-là, il faut s'habituer, nous comme chrétiens, à voir la main souveraine de Dieu. Tu sais, quand on parle de providence, là, la providence, c'est tout simplement... Dieu a décidé de tous les événements qui étaient pour se produire sur la terre, de tous les siècles, de toutes les époques, y compris ce qui se passe maintenant. Là. Les maladies, rien qui arrive sans que le Seigneur... je pense que c'est dans Lamentation, ça dit, qui dit qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné? Il l'a ordonné. Il faut s'habituer à voir la main de Dieu dans les événements qui arrivent et non pas toujours considérer ça comme des événements naturels. Chose importante de voir la perspective biblique providentielle, on se doit, comme chrétien, de s'habituer à voir les jugements comme des avertissements avant la deuxième venue du Seigneur. Il est en train de nous donner des avertissements au peuple de Dieu, mais à l'ensemble de la terre. Puis plus ça va aller, là ça commence par la terre, parce qu'on va voir que ça va aller la mer, etc., les poissons vont mourir, etc. Alors, ça dit dans le psaume 29, versets 3 à 11, on lit ce passage-là, parce que ça nous parle de la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les arbres. Dans son palais, tout s'écrit « Gloire ». L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel, sur son trône, règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Quel beau passage! Il nous montre que Dieu, par sa voix, est capable de dénuder les arbres, est capable de faire accoucher les biches. Il faut voir la main de l'Éternel dans tout ce qui se passe, parce qu'elle est là. Intéressant aussi de voir le parallèle, parce que où ça parle de la grêle la première fois, une grêle qui a détruit presque tout un pays, c'est dans l'Exode, quand il y a eu les fameuses plaies d'Égypte, où le Seigneur voulait que son peuple sorte de l'Égypte. Exode chapitre 9, versets 22 à 25. On voit un parallèle qu'il y a avec Exode 9, versets 22 à 25, le phénomène de la grêle, le premier jugement que les Égyptiens ont eu. Et on sait que dans le livre des Écritures, les Égyptiens ont toujours représenté le monde. C'est comme un symbole du monde. Si le premier jugement a eu lieu sur le monde, on peut dire que, dans le fond, ici, on voit un accomplissement, mais dans le Nouveau Testament. Exode, chapitre 9, versets 22 à 25. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel, et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux, et sur toutes les herbes des champs dans le pays d'Égypte. Moïse étendit sa verge vers le ciel, et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle, et le feu se mêlait avec la grêle. » Trouvez-vous que ça ressemble un petit peu à notre passage aujourd'hui? Et elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et la grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Que ça ressemble au passage d'aujourd'hui? Jugement que le Seigneur a envoyé sur l'Égypte, fait sortir son peuple d'Égypte. Maintenant, il est en train de dire qu'il va se produire. Il est en train d'envoyer des avertissements et que ça va se produire. Donc, les plaies d'Égypte avaient pour but de démontrer la toute-puissance de Dieu. Quand Dieu, est-ce que c'était parce que le Seigneur n'était pas capable de faire obéir de force Pharaon? Non. On ne peut même pas poser cette question-là sérieusement, là. Il aurait pu les faire sortir de force avec une très, très, très grande facilité. Pourquoi il le faisait? Il le dit dans le livre de Romains, c'est pour démontrer sa toute-puissance. L'omnipotence de Dieu, capable de faire des appels. T'essayeras de commander ça à la grêle, toi, ça va t'oublier. Je ne pense pas que ça marche. Peut-être t'essayer. Allez, go. Démontrer sa toute-puissance. Et aussi démontrer la dureté de cœur de Pharaon et de tous les Égyptiens. Même s'il leur disait, « Hey, il y a eu 10 plaies d'Égypte. » Pas parce qu'il n'a pas eu les avertissements, lui. Il y en a eu un arrière de l'autre. Ça a pris que fait mourir les premiers-nés. Ça y en a pris beaucoup. La preuve, c'est qu'il va faire la même chose à la fin des temps. On est dedans, là. D'après moi, on est très proche. Il va envoyer des jugements d'une sévérité aussi grande. Puis les hommes, il va démontrer sa toute-puissance et les hommes vont garder leur dureté de cœur et ils vont continuer à pécher malgré les avertissements qu'il commence à donner miséricordieusement sur l'univers créé, sur la nature, plutôt que sur les hommes en premier. On voit-tu la main miséricordieuse de Dieu? Même dans ses jugements, le Seigneur est miséricordieux. Et autre chose qu'il faut faire le lien, c'est avec ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est en réponse à la prière des saints. Ne pensons pas que quand on prie le Seigneur, des choses qui se passent sur la terre, qu'on voit des affaires extrêmement mauvaises qui se produisent sur la terre, qui nous font dresser les cheveux de sa tête, que quand on prie le Seigneur pour ça, qu'il n'a pas des réponses. Ce qui arrive, c'est qu'on ne les voit pas nécessairement, ces jugements. Mais ça ne veut pas dire qu'à cause qu'on ne les voit pas, que le Seigneur ne les exerce pas. Et ici, il veut qu'on fasse le lien entre nos prières et ce que lui envoie comme jugement sur la terre. Ça, je suis à peu près convaincu, on va dire comme François tantôt, à 100 000 à l'heure, qu'on ne prend pas suffisamment conscience de la puissance de nos prières. On prie pour, à cause qu'on ne voit rien, on pense qu'il ne se passe rien. Si on serait vraiment conscient de la puissance de la prière, là, on prierait beaucoup plus. Puis il n'y aura pas un mercredi soir où toute l'Église ne sera pas là. C'est aussi simple que ça, là. Alors, c'est en réponse à la prière des saints qui envoie ces jugements-là. Et ici, il est en train de nous dire que les jugements, il les envoie sur les ressources naturelles premières de subsistance humaine. On peut-tu se passer de blé? On peut-tu se passer de bien les choses qu'on récolte dans les champs? Ceux qui sont cultivateurs ici, ils en savent quelque chose bien plus que moi, là. On peut-tu s'en passer? Non, on ne peut pas s'en passer. Mais quand le Seigneur va commencer à envoyer des jugements sur la terre pour priver les hommes de leurs ressources qu'ils ont besoin pour nourrir les animaux et se nourrir eux-mêmes aussi, alors que les hommes, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, ils vont réfléchir. Donc, le Seigneur commence par envoyer des jugements sur les ressources premières de subsistance humaine. Autre chose qu'on voit là-dedans, c'est la question qu'il envoie des jugements qui sont temporaires et qui sont provisoires. Ça ne durera pas parce qu'un petit peu plus tard, on va voir qu'il va y avoir des herbes, il va y avoir... Donc, le Seigneur commence par des avertissements qui sont temporaires, qui sont provisoires, qui ne dureront pas, mais qui vont... Le Seigneur va être obligé d'envoyer d'autres jugements de d'autres façons pour que les hommes finissent par, comme on dit en québécois, avant qu'ils finissent par allumer, comme on dit. Puis il y en a plusieurs qui n'allumeront pas. S'ils allument, ça va être par la grâce de Dieu. Et c'est un jugement aussi qui véhicule un message divin plein de miséricorde. On lit ça, on n'est pas porté à avoir de la miséricorde là-dedans, pourtant il y en a. Il y en a beaucoup. Il y en a, le jugement comporte double but, garder l'Église éveillée, les événements que le Seigneur permet qui sont désagréables. Parfois, ça a pour but de nous réveiller. Et aussi, d'appeler le monde à la repentance. Plus il va envoyer des jugements sévères, pensez-vous que la pandémie actuelle, ça n'a aucun lien avec le Seigneur? Oui, il y en a un. Il y en a un qui a un rapport avec nous, puis il y en a un qui a un rapport avec le monde. Il veut les appeler à la repentance. On a beau le dire au monde, j'ai envoyé récemment, au début de la pandémie, un petit manuel, un petit livre qui était écrit par un pasteur qui démontrait, qui développait cette idée-là. Et on a vraiment besoin de comprendre que la main de Dieu est là-dedans. C'est pas juste un hasard. Alors, nos prières quotidiennes ont un effet beaucoup plus puissant qu'on pourrait l'imaginer. Juste quand on prie le Notre Père, là, on dit... Que ton règne vienne, le règne du Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sa volonté au ciel, là, elle est accomplie à la perfection. On est en train de lui demander, fais que ta volonté, elle s'exécute sur la terre de la même manière qu'elle s'exécute au ciel. Et quand on prie le Notre Père, là, il répond, le Seigneur. Parce qu'il nous dit, quand vous priez, dites. Puis là, il dit les mots du Notre Père. Quand on dit le Notre Père, on dit des paroles d'une puissance qu'on n'est même pas conscient nous-mêmes qu'on fait quand on dit ça. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il répond. il répond par ses jugements-là. Alors, je pense que, ouais, vu qu'aujourd'hui, on va arrêter là, puis on continuera la semaine prochaine. On n'aura pas eu le temps de le faire cette semaine. Pas plus grave que ça. On arrête là.